franceinter.fr.
Bonjour la belle équipe de Daniel Mermet. Mon Dieu, comme je vous écoute tous les jours. Ben voilà, ce matin, moi, pour la Saint-Valentin, j'ai eu mon plateau avec mon petit café et une belle feuille où c'était dessiné deux cœurs avec des roses. L'amour, ça se cultive tout comme une rose. Ça s'entretient. Et ça fait 55 ans que ça s'entretient, les amis. C'est pas beau, ça? La vie continue malgré la grisaille du social. On est écœurés, révoltés. Et on pense à toute cette jeunesse, tout ce peuple qui souffre. Allez, on vous embrasse et merci pour vos belles émissions. Bravo, là-bas, si j'y suis. Ciao!
Bonjour, je suis Madeleine de La Réole, en Gironde. Je vous appelle parce que je suis très inquiète pour Carlos Bon. Je pense qu'il va falloir se cotiser, là, hein, puisqu'il va donner une part de son salaire ou de sa rémunération variable. Le pauvre, vite, vite, il va falloir faire quelque chose.
La substitution des viandes dans les plats surgelés pousse à l'interrogation. Dans le bourguignon de Jean-Marie et Gilbert, est-ce vraiment du gros bœuf ou du gros porc, voire de l'âne batté ou de la hyène? Et dans la poule au pot de Marine et Nadine, si c'était de la bécasse, de la dinde ou du pitbull? Dans la gamme diététique de François et Jean-Marc, de l'autruche? De la tortue? Ce qui est sûr, c'est que tous ces cabots et tous ces faisans qui alternent langue de boa et langue de vipère, n'ont pas fini de nous faire avaler des couleuvres.
Un temps, j'ai envisagé de délocaliser mes vaches et moi-même outre-Rhin. C'est vrai que le modèle allemand, ça fait envie. Hein. Du dialogue social au top, une économie florissante, bref, un pays de cocagne où coule le lait et le miel. Mais depuis que j'ai discuté avec mon pote Jürgen, j'hésite. En l'absence de SMIC, il s'est retrouvé à bosser pour 3 euros de l'heure. La flexi-sécurité, c'est surtout flexi. Et sous prétexte que dans les hard discount et lasagne au cheval te coûtent moins cher, Angela a revu à la baisse les minima sociaux. Modèle. Vous avez dit modèle? C'est Christine du Limousin.
Bonjour Pascal. Bonjour à toute l'équipe. Vraiment, j'écoute vos émissions tout le temps. Et ça nous donne chaud au cœur parce que franchement, effectivement, on nous laisse dans le désespoir. Moi, je me retrouve, mon mari m'abandonne, je suis au RSA. J'ai deux filles. Donc, je viens de passer au tribunal. Mon mari me donne 200 euros par mois de pension jusqu'à ce qu'on divorce définitivement. Et la CAF me les enlève du RSA. Et mon aide au logement est recalculée. Ce qui veut dire que je me suis battue au tribunal pour avoir 200 euros et je me retrouve en fait avec tout leur recalcul avec 100 euros de moins. Donc voilà, je voulais dénoncer ça parce que femme seule, avec enfant, on connaît que nous sommes tous dans le désespoir, on ne sait plus quoi faire. On est tellement de femmes dans ce cas-là que ça en est écœurant.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, chers auditeurs, de là-bas si j'y suis, merci. Nous vivons de grands périls aujourd'hui et de grandes menaces. Hier, c'était le bolchevique avec son couteau entre les dents. Et on attendait que des colonnes de chars soviétiques descendent des Champs-Élysées, acclamées par les communistes français, ses ennemis de l'intérieur. Ils ont disparu, vous savez comment, mais ils ont été remplacés par un nouveau Léviathan qui s'apprête à nous engloutir. Oui, ce nouveau Léviathan, c'est l'islamiste. Il est déjà là. Il est parmi nous. Il est partout en Europe. Il se reproduit comme le lapin. Il convertit nos enfants. Il refuse de s'intégrer, il détourne les allocations sociales, il couvre l'Europe de minarets et de boucheries halal. Nous ne sommes plus chez nous, nous ne sommes plus nous, sans racisme aucun, sans racisme aucun. Il faut agir et écouter cette émission jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h, nous sommes avec Raphaël Liogier. Le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective qui sort ces temps-ci au seuil dans l'espoir, sans doute un peu vain, de ruiner quelques mythes, quelques croyances, quelques amalgames confusionnels qui remontent ces temps-ci. Ça fait un bout de temps que ça dure, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En ce moment, ça remonte à nouveau du fin fond de quoi donc ? Je vous laisse deviner. Mais c'est quand même suffisamment grave pour qu'on ait eu envie de faire cette émission avec Raphaël Liogier. Je répète le titre de son bouquin, Le mythe de l'islamisation, et c'est sur une obsession collective. Le titre dit bien ce que c'est pas un titre qui trompe le client. Voilà notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Je pense à ce chômeur qui s'est immolé par le feu. L'État accorde 30 fois moins d'argent pour la prévention du suicide qu'à la prévention sur la route. 30 suicides par jour. À quand de vraies statistiques sur les causes et combien de personnes désespérées par le manque total de revenus ou bien d'emplois inhumains, de stress, d'humiliation? Un accident mortel en voiture, c'est dramatique. Mais 5 secondes avant sa mort, il était comme vous et moi. Tandis que le suicidé, il traîne son angoisse, sa déprime depuis des jours, des semaines, des mois et même des années. Et ça, c'est abominable. L'État fait peu parce que dans ce cas-là, il a une grande responsabilité. Avec le tout compétitivité, les économies mal ciblées et ce capitalisme qui me dégoûte. Marie-Paul de Villejuif.
Le 9 janvier 2013, le couperet est tombé sur la maternité de Vire dans le Calvados. Elle fermera définitivement ses portes fin mars si aucun gynécologue n'est recruté, annonce l'Agence régionale de santé. Après 2 ans de lutte, le collectif virois « Touche pas à ma santé, mon hosto » n'a pas pour autant baissé les bras et continue la lutte. Après n'avoir reçu que mépris lors d'un entretien au ministère de la Santé, ils demandent aux Bocains de remettre leur carte électorale ce vendredi 14 février et samedi 15 février. Donc, rendez-vous au rond-point de la porte-horloge à Vire ce week-end. Par ce geste simple et symbolique, vous montrerez votre désaccord face à une décision totalement injuste. Venez nombreux défendre votre maternité et votre hôpital de proximité.
Marcel Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé un soir alors qu'il revenait d'un meeting politique aux alentours de Marseille.
Il ne se pose pas la question de la religion dans la société. Il se pose la question de l'islam dans une société laïque.
À présent, Marcel Vincent sait que les envahisseurs sont là.
L'islam d'importation récente en France n'a pas subi la grande lessive rationaliste et individualiste de la modernité.
Les envahisseurs, ces êtres étranges venus d'ailleurs pour conquérir la terre.
Il y a aussi ce que j'ai appelé un ennemi intérieur, c'est-à-dire des individus, souvent jeunes, qui sont dans un processus de radicalisation.
Est-ce qu'il y aurait une vingtaine de Mohamed Merah potentiels en puissance en France, une trentaine, cent ? Est-ce que vous le savez à peu près ?
Plusieurs dizaines, sans aucun doute.
Les envahisseurs sont là !
Je suis islamiste. Je crois en cela.
Plusieurs dizaines. Sans aucun doute, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis, avec Raphaël Liogier. Le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective. Un spectre hante l'Europe, c'est le spectre de l'islamisme. Voilà, j'ai pensé que c'était pas mal de commencer comme ça, Raphaël Liogier, en paraphrasant la première ligne du manifeste du Parti communiste, qui est « Un spectre hante l'Europe, c'est le spectre du communisme, et maintenant on peut transformer, il y a juste un mot à changer, qui est l'islamisme. » Voilà ce qui nous hante, voilà ce qui nous menace, c'est l'islamisme, l'islamisation. C'est ce qu'on peut conclure, si on lit juste la couverture de votre bouquin, hein, ça c'est ce qu'on peut conclure. « Le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective » que vous signez, qui sort au Seuil. Je vais vous présenter en 3 mots. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et vous dirigez l'Observatoire du
religieux. Et le titre est très explicite, hein, le mythe de l'islamisation.
Peut-être
est...
trop explicite. Parce que, au seul titre, j'ai reçu des lettres de gens qui n'éprouvaient pas le besoin de lire le livre parce que, à l'évidence, c'était, le titre en lui-même était une insulte.
Raphaël Liogier, votre bouquin ne va pas marcher et je pense qu'il ne sert absolument à rien. Vous vous êtes lancé dans un travail absolument vain, celui d'essayer, par la logique, la raison et la recherche, ce qui est votre boulot, de démolir un mythe. Vous avez des prédécesseurs qui se sont tous cassés les dents sur les mythes et sur celui-là, je pense que je vous trouve très très courageux. D'essayer avec simplement des chiffres, parce que tout de suite, là, je sens les oreilles qui se dressent de nos auditeurs, qui se rapprochent, qui relèvent le niveau du transistor et qui s'arrêtent sur le parking pour dire « Quoi ? Ils vont encore parler de cela ?» Et non, pas du tout, les gars. Soyez tranquilles. On va simplement essayer d'expliquer pourquoi ce bouquin, à travers des chiffres recoupés, à travers quelques analyses très simples, qui... pense-t-on, espère-t-on, pourrait peut-être dégonfler un peu ce mythe de l'islamisation. J'ai commencé avec Karl Marx, c'est pas mal, comme entrée, et Engels, bien sûr. Je peux continuer avec le général de Gaulle. Vous rappelez dans votre bouquin une thèse qui a circulé à l'époque de l'indépendance de l'Algérie, qui était que le général de Gaulle ne craignait pas tant que l'Algérie devint française, mais il redoutait le contraire, que la France devienne algérienne. Et vous citez quelqu'un qui a cité de Gaulle, Alain Perfitte, qui n'est pas suspect de ne pas aimer de Gaulle, non. Qui est vraiment le scribe accroupi et qui rappelait que de Gaulle disait « Mais un jour, mon village ne s'appellera plus Colombelle et deux églises, mais Colombelle et deux mosquées. » Donc, on voit bien qu'il y a une crainte ancienne de nous voir envahis.
Il est le père d'une expression quand même intéressante, l'expression de bougnoulisation. C'est assez surprenant de le voir s'adresser à son compagnon de la libération, Raymond Drône, qui ne comprend pas à l'évidence la position du général de Gaulle, sa peur de cette immigration venue du Sud, et qui lui dit « Mais enfin, Drône, vous ne donneriez pas votre fille à un bougnoul, vous n'allez pas vous faire bougnouliser. » Et là, tout est dit, quoi. Mais je crois que, finalement, cette idée de bougnoulisation, c'est une idée, toute chose égale par ailleurs, plus sympathique que ce qui se passe aujourd'hui. À mon avis, on a passé un palier. C'est pour ça que j'ai voulu écrire le livre. C'est parce qu'il y a un palier qui a été franchi.
La réalité n'affecte pas le dogme. C'est ce qu'on disait au temps où le Parti communiste régnait sur notre pays. Et la rationalité n'ébrèche pas le préjugé. Mais vous attaquez quand même par la rationalité à ce préjugé. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire ce bouquin ?
J'ai remarqué que dans une multitude de sites, on m'accuse d'avoir fait ce livre pour des raisons politiques, pour démontrer l'indémontrable, etc. Alors que simplement, si j'ai écrit ce bouquin, c'est par curiosité. C'est-à-dire que j'entendais cette expression d'islamisation et que j'ai remarqué progressivement que cette expression avait deux volets. Un volet qui était quantitatif, l'idée selon laquelle il y aurait un accroissement progressif, irréversible du nombre de musulmans, avec l'image de la marée qui monte. Et puis d'un autre côté, que cette marée, elle a une caractéristique, c'est pas un phénomène purement matériel, passif justement, comme pouvait le croire le général de Gaulle à l'époque, mais on lui accorde une intention. C'est-à-dire que cette marée, c'est-à-dire, en gros, les musulmans se reproduiraient plus vite, convertiraient plus vite, immigreraient plus vite, mais ils le feraient exprès. Ils auraient une intention, ils ont un plan, en quelque sorte. Voilà. Et moi, j'ai voulu, naïvement, je vais essayer de faire cette recherche du point de vue quantitatif. Donc, je me suis plongé dans les Eurostats. Je ne suis pas démographe de formation, mais enfin, j'avais fait un peu de démographie, étant sociologue. Mais je suis resté pendant 6-7 mois, j'ai analysé tous les chiffres que j'ai pu trouver, qui circule sauvagement. L'Europe sera musulmane dans 35 ans, dans 25 ans, dans 50 ans. L'Allemagne, la Belgique, Bruxelles est déjà quasiment musulman, paraît-il, etc. Et je me suis rendu compte, quand même à mon grand étonnement, que non seulement ce n'était pas le cas, qu'il n'y avait pas cette progression faramineuse, mais qu'il y avait pas. Non seulement dans le monde, où la plupart des pays musulmans on commençait par le premier pays musulman au monde, l'Indonésie, mais même les autres, même le Maroc. La plupart des pays musulmans sont soit à la limite du renouvellement de population, soit en dessous du taux de renouvellement, en dessous de 2,1, ce qui est assez surprenant.
h 13, c'est l'heure d'Éric Zemmour. Mmh. Bonjour Éric Zemmour.
Ben bonjour.
RTL.
Les convertis sont moins d'1% des musulmans de France, mais des cas très médiatiques et ça vous a frappé.
Oui, les convertis à l'islam font la une des médias.
9 octobre 2012.
La semaine dernière, c'était la chanteuse Diams. Ce fut hier donc le délinquant djihadiste Jérémy Louis Sidney. On se souvient des footballeurs Ribéry ou Anelka ou encore du rappeur Abdelmalik. Enfin, rien de commun, bien sûr, d'entre tous ces cas, si ce n'est leur foi nouvellement acquise, mais aussi le lieu où ils ont grandi. Ces banlieues des grandes villes françaises où les populations immigrées sont devenues majoritaires. Comme si la pression culturelle de ces quartiers finissait par imposer aux infidèles d'embrasser la foi dominante. Là où notre époque ne voit qu'une démarche personnelle, il y aurait donc avant tout dans ces conversions l'influence du groupe. Ces jeunes, qui ne supportent aucune contrainte, ne semblent pas effrayés par la rigueur du dogme coranique. Après tout, l'islam est la seule religion où l'apostasie, la conversion à une autre foi, demeure punie de mort.
Raphaël Yogier, tout ce que vous dites là, ce qui dénonce ce complot à longueur de bouquins, à longueur de conférences, à longueur d'Internet aussi, hein, il y a des réseaux extrêmement vivaces.
Fonction d'Internet très importante.
Très importante dans cette histoire. Tout ça, ça se focalise autour du concept de rabia. Alors, je ne sais pas si tous les auditeurs savent de quoi il retourne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est projet Eurabia ?
Alors, Eurabia, c'est une thèse que le grand public ne connaît pas complètement en son entier, etc. Mais ça constitue le noyau. Eurabia, la thèse elle-même, un noyau idéologique qui a influencé, qui influence jusqu'à des gens comme M. Zemmour, qui a influencé Oriana Fallaci, qui influence des grands éditorialistes américains du New York Times qui disent que l'Europe est le marchepied de l'islamisation du monde. Ça a une influence énorme. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'est-ce que dit cette idéologie. Alors elle a été fondée, si je puis dire, par une universitaire d'origine égyptienne, juive d'origine égyptienne, qui a été mise à la porte de l'Égypte à l'époque de Nasser en raison de ses origines, donc il a assez mal vécu, enfin on peut le comprendre, et qui a constitué cette thèse de Rabia. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, en gros, que depuis les deux premiers chocs pétroliers des années 70, l'Europe et l'économie européenne s'est effritée, mais c'est véritablement effritée, et qu'elle s'est sentie, cette Europe, faible face aux États-Unis. Et pour réussir à maintenir sa force face aux États-Unis, cette Europe corrompue, en crise économique, à court de ressources naturelles, elle s'est alliée à l'islam, parce que l'islam, c'est aussi l'Arabie Saoudite, c'est le Golfe Persique, donc c'est les pétrodollars. Et donc elle s'est fait acheter à coup de pétrodollars pour pouvoir continuer à avoir une certaine importance à l'échelle planétaire. Mais en échange, elle a ouvert ses frontières massivement aux musulmans et elle aurait accepté l'islamisation massive de son propre territoire. J'énonce là la thèse de façon complètement neutre. C'est la raison pour laquelle aussi il y aurait une complaisance infinie vis-à-vis de l'islam des Européens et il y aurait en même temps une complaisance infinie vis-à-vis des Palestiniens, de la Palestine contre Israël. Ce qui, du point de vue des politiques concrètes de l'Europe, est assez faux. Et même du point de vue des politiques de frontières. Les frontières européennes sont plus fermées que la frontière américaine. Et cette thèse, c'est-à-dire que c'est par l'Europe qu'il y a eu islamisation, elle a permis à des idées d'éditorialistes américains, de centre-droit, de droite, des protestants, surtout des républicains, mais aussi dans certains milieux démocrates, d'attribuer la faute du 11 septembre aux Européens. C'est-à-dire, c'est parce que les Européens ont été complaisants qu'il y a eu le 11 septembre. Ce n'est pas la faute des Américains, finalement, c'est la faute des Européens. C'est la thèse centrale de cette idée d'islamisation.
Donc il y a un complot. L'Europe est victime d'un complot à l'extérieur de l'Europe. Ils arrivent, ils nous cernent, mais il y a aussi l'ennemi intérieur, c'est-à-dire les musulmans qui sont parmi nous, qui parfois ont des airs très très innocents, parfois apparaissent de façon très spectaculaire, mais qui évidemment sont les alliés des autres à l'extérieur.
Et ça permet aussi quelque chose d'intéressant, puisque cette Europe est corrompue, ça permet de dire qu'il y a des traîtres qui ne sont pas musulmans, collaborateurs. Et moi justement, j'ai compris après avoir fait ces recherches, pourquoi est-ce que le seul fait d'écrire un livre qui s'intitule « Le mythe de l'islamisation » en soi était déjà coupable, à l'intérieur même du mythe de l'islamisation.
Oui, vous êtes un idiot utile.
Je suis l'idiot utile au mieux, ou bien le plus grave, c'est que j'ai compris qu'ils avaient déjà gagné, Là, je ne suis pas idiot, mais je me mets du côté des plus forts.
Voilà. Parce que...
Ça peut être ça.
On va voir, voilà. Les auditeurs vont se faire leur point de vue sur vous d'ici à la fin de cette émission. Raphaël Liogier, le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective. Ce que vous dites de la thèse de base de Rabia fait écho à la critique constante des lutteurs anti-islamisation qui disent la classe politique est molle, elle est laxiste, elle est irresponsable, la classe politique n'a pas de courage. Et puis il y a aussi les bien-pensants de gauche, mais pas forcément seulement de gauche, qui sont par naïveté, par idiotie utile ou par complicité, les islamo-trotskistes, complices de ce phénomène menaçant qu'est l'islamisation. Ça, c'est une constante dans les discours.
Parce que c'est vrai que la caractéristique de l'islamisation, qui pour moi n'est plus à proprement parler de la phobie, de l'islamophobie. Je pense que du point de vue clinique, nous ne sommes plus face à une phobie, mais plus face à ce que j'appelle, faute de mieux, un théâtre paranoïaque. Parce que dans la phobie, par exemple, lorsqu'on a peur des araignées, qu'on est phobique, on essaye d'éviter les araignées, on en a peur, ou on va peut-être l'écraser, au pire, mais probablement on va demander à quelqu'un d'autre de le faire, parce qu'on a vraiment une phobie des araignées. Et quand on n'en voit pas, bon, ça va, on se porte relativement bien. Dans la paranoïa, c'est pas pareil. Même lorsqu'on ne voit pas des araignées, on en a peur, et même on peut en avoir encore plus peur, parce qu'on pense qu'elle prépare quelque chose. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, dans la paranoïa, on suppose l'intention de l'araignée, on suppose qu'elle nous en veut. Quand elle sort, on dit « Ah, vous voyez bien qu'elle sort, elle est en train de préparer quelque chose, les musulmans qui prient dans la rue ». Vous voyez bien qu'ils sont en train d'occuper le territoire, que c'est stratégique. Ils sont dans des cités pour des raisons historiques, c'est-à-dire dans des quartiers populaires, pour des raisons historiques, économiques, sociales, sur lesquelles on pourrait discuter, mais enfin, ce n'est pas leur désir. Mais ça va devenir leur désir, parce que ça accroîtrait leur capacité de mobilisation. Et donc, on voit bien qu'il va y avoir une niche consommatrice, parce qu'effectivement, il y a un regain de foi chez les jeunes musulmans qui aujourd'hui font plus le ramadan, mangent halal, etc. Mais là, d'un seul coup, ça devient un problème de sécurité nationale. Il y a 3 sandwichs halal, ce n'est pas une question de niche consommatrice, c'est immédiatement une question de sécurité nationale. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type d'interprétation n'aurait pas pu se faire si on n'était pas dans un théâtre paranoïaque, c'est-à-dire s'il n'y avait pas ce problème d'identité, s'il n'y avait pas cette espèce de peur de ne plus être identique à ce qu'on a été.
Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. Ils ont le pétrole, mais c'est tout. On a les cailloux, on a les bijoux, on a les bignoux. Ils ont les dollars. C'est bien. On a les mannequins, les grands magasins, le paradis latin. Ils ont les barils, on a les bidons. Mais pour voir où sont-ils chez Dom Pérignon. Parce qu'ils ont le pétrole, mais ils n'ont pas d'eau. En montagne, pas d'huîtres en Bretagne, que des sables chauds. Pétrole on the rocks, ça ne désaltère pas. Les viands sortent des Alpes, pas du Sahara.
Alors, Raphaël Liogier, venons-en à votre travail de recherche. Vous voyez, enfin du moins les partisans ou ceux qui redoutent cette islamisation, évoquent régulièrement 3 causes, 3 phénomènes, selon eux, la fécondité des femmes musulmanes, l'immigration, ils sont de plus en plus nombreux, ils nous menacent, et la conversion aussi à l'islam. Alors, si vous voulez, on va prendre ces 3 points. C'est l'apport le plus, sans doute le plus intéressant dans votre bouquin, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un boulot de chiffres, de recherches, entrecoupées, croisées, vérifiées. concernant, par exemple, le nombre de musulmans en France. Moi, depuis des années, je répète la même chose. Je ne sais pas d'où j'ai sorti ce chiffre. Et je dis, il y a 5 millions de musulmans en France. Ce qui est une approximation tout à fait oiseuse, étant donné que, pour des raisons qu'on sait, il n'y a pas de statistiques de nature ethnique, disons, en France, pour des bonnes raisons, qui sont celles de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce chiffre est tout à fait approximatif. Or, ce que vous avancez dans votre bouquin, selon des enquêtes de l'INE, de l'INSEE, l'estimation du nombre de musulmans en France n'est pas de 5 à 6 millions, mais de 2,1 millions.
Alors, il y aurait 2,1 millions d'individus adultes qui se reconnaissent comme musulmans. Si on compte les jeunes, on peut monter jusqu'à entre 3 et 4 millions de musulmans, mais en aucun cas 5, 6, 7, parfois des chiffres qui sont avancés, qui vont au-delà de ça. Ça, c'est sûr. Et surtout, ce qui est important, c'est de souligner qu'il n'y a pas un accroissement important du nombre de musulmans. C'est-à-dire que vous remarquerez, même votre approximation, vous avez dit vous-même que vous la donniez depuis quelques années, ben finalement, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que même lorsqu'on est dans une approximation qui est fausse, comme toutes les approximations, on reste toujours à peu près dans les mêmes fourchettes. Si on était dans une population aussi dynamique, depuis les années 80-90, on nous dirait eh ben maintenant, il y en aurait 10 millions, il y en aurait 15 millions. Et les mêmes qui nous disent que dans 10 ans, il y en aura 10, 15, 20 millions, ben c'est ceux qui disaient la même chose dans les années 80, alors que ça s'est accru, parce que le reste de la population s'est accru. Et puis, il est vrai que dans les années 70, il y avait une fécondité des personnes supposées musulmanes, parce que même s'il n'y a pas de statistiques autorisées en France, j'ai trouvé un certain nombre d'enquêtes, en particulier une enquête allemande qui porte aussi sur la France, qui a ses limites, mais enfin qui est pas mal faite, et qui essaye d'évaluer le nombre d'enfants par femme chez les individus théoriquement musulmans, parce qu'ils seraient d'origine, par exemple, en Allemagne, plutôt d'origine turque, en France, plutôt d'origine maghrébine, au Royaume-Uni, plutôt d'origine pakistanaise. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que dans les années 70, oui, il y a à peu près une différence de 2 enfants par femme par rapport à la moyenne nationale, France, Allemagne et autres. Dans les années 90, 96, ça serait le point de bascule, plus qu'un enfant par femme. Et dans les années 2000, ça s'égalise. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'on est dans une population, encore une fois, anormalement normale, qui, lorsqu'elle s'adapte aux conditions de vie, à la manière de vivre présente, au bout d'une ou deux générations, et même dans la même génération, ben, les habitudes changent. Et voilà.
Donc voilà, voilà deux points. Donc, beaucoup moins de musulmans qu'on ne le dit d'ordinaire. Au total, en Europe, vous avancez le chiffre de 13 à 16 millions. Ouais. De musulmans en Europe, ce qui fait 4%.
4% de l'Union européenne.
On est loin de la marée. Ouais.
Et surtout, pas d'accroissement prévisible dans les 10, 15, 20 ans. Il n'y a pas cette espèce de montée. C'est ça, surtout, qui me semble crucial.
Vous vous citez, concernant la fécondité, vous citez la fécondité en Iran, par exemple. C'est 1,8 par femme. En Algérie, 1,7. Ouais. Alors qu'en France, et on en est ravis, c'est 2,1. Ouais. Donc on fabrique plus de petits Français que de petits Algériens.
C'est vrai que la peur.
Petits Iraniens,
c'est vrai,
par exemple.
Tout à fait, c'est vrai que la peur gaullienne.
La bougnoulisation.
L'effroi de la bougnoulisation, bah, c'est aujourd'hui quelque chose qui ne fonctionne pas.
Pas de djihad nataliste.
Ah non, pas de djihad nataliste, là, c'est certain.
Oui, mais là, ça fait quand même des choses qu'on entend toujours dans les conversations qui sont en train de,
je sais bien,
en principe, de s'effondrer.
Et puis, je sais que ça ne changera rien. Vous avez dit que mon livre ne changeait rien, mais de notre côté, je pourrais vous retourner le compliment, c'est-à-dire que cette émission ne changera rien.
Absolument, mais on en est sûr. Il faut bien qu'on vive les choses.
Voilà, c'est ça.
Il faut bien qu'on attende 16 heures les informations.
Il y a aussi ce que j'ai appelé un ennemi intérieur, c'est-à-dire des individus souvent jeunes,
Manuel Valls,
qui sont dans un processus de radicalisation.
Est-ce qu'il y aurait une vingtaine de Mohamed Merah potentiels en puissance en France, une trentaine, 100? Est-ce que vous le savez à peu près?
Plusieurs dizaines, sans aucun doute.
7 décembre 2012.
Alors, maintenant, on va parler de l'immigration. Alors là, c'est, ils arrivent.
Ouais,
là-bas, voilà. Or, vous nous dites, pas tellement. Ouais. Le premier pays d'immigration en direction de l'Union européenne, Maroc, 140 000. Et ensuite,
surprise,
les Chinois.
Ouais, 97 000, quasiment 100 000.
Le péril jaune, ça, c'était un thème. Parce que dans ce qu'on voit, en lisant votre bouquin, l'islamisation, On voit qu'on est menacé par ceux qui viennent jusque dans nos bras égorger nos filles et nos campagnes. C'est les étrangers qui viennent. C'est dans l'hymne national quand même. Mais on en a eu d'autres avant. Il y a eu donc, je parlais tout à l'heure, les soviétiques avec leurs chars qui allaient descendre les Champs-Élysées et les cosaques qui allaient faire boire leurs chevaux sur les fontaines des Champs-Élysées. On a eu le péril jaune. Auparavant, vous citez Drummond et sa France juive. Avant, c'était les juifs qui, à quelque chose près, vous citez Sartre, la réflexion sur la question juive.
Le juif métaphysique, qui est devenu un juif métaphysique.
C'est ça.
Plus dans la réalité, qui est fantomatique.
Et très justement, vous prenez un petit extrait du texte de Sartre. Vous remplacez juif par musulman.
C'est vrai. Ouais,
et on a exactement les mêmes.
Mais je préviens le lecteur, quand même.
Oui, oui. Ouais. Donc, on voit bien que cette menace... Ouais. Nous sommes Jérusalem encerclée et il y a toujours la menace de ces étrangers qui viennent jusqu'à nous. Et toujours sur l'immigration, vous dites, sur les 10 premiers pays d'immigration en Europe, 3 sont musulmans.
Ouais.
Donc, ça fait quand même 3 choses qui tombent, selon vous, hein, toujours sur le nombre de musulmans, sur la fécondité, sur l'immigration, voilà 3. C'est comme les piliers.
Et la conversion. Les piliers de l'islamisation. Il y a aussi sur la conversion.
Et la conversion. Voilà. Alors, mais, je vous cite toujours là. Ouais. En France, selon les chiffres que vous avez trouvés, on aurait 3000 à 4000 conversions de Français, des bons, vrais Français de souche, les nôtres, vers l'islam. Et c'est beaucoup moins que les évangéliques.
Ouais. Il y a une dynamique aussi bien au niveau mondial qu'au niveau local qui est bien supérieure dans les mouvements néo-évangéliques. S'il y avait une sorte de lutte, de choc des civilisations, le combat est perdu d'avance. C'est-à-dire la religion de demain, ça sera le christianisme évangélique en termes numériques. Quand vous pensez qu'en Chine, il y a à peu près, ça varie, mais enfin une moyenne entre 5, 6 000 et 10 000 conversions par jour.
Vers l'évangélique, voilà, vers les évangéliques,
donc,
l'église évangélique.
Tout à fait, donc vers la multitude. Parce que l'avantage des églises évangéliques, c'est qu'elles fonctionnent par capillarité, comme le capitalisme globalisé actuel. Les églises se modifient en fonction des désirs locaux, des mythes locaux, et donc arrivent à pénétrer les strates de la société. C'est comme ça qu'ils ont, on pourrait dire, gagné des parts de marché religieux.
Parts de marché des âmes.
En Amérique latine, en Afrique, etc. Et là, il faut être clair, les musulmans sont beaucoup moins adaptés, beaucoup moins efficaces. On en déplaise à ceux qui sont dans le mythe de l'islamisation, il y a une faible efficacité. Et n'en déplaise aussi, parce que ce mythe, à force d'être sans cesse évoqué par les tenants du bloc identitaire ou même dans l'ensemble de la classe politique, il finit par entrer dans les oreilles des musulmans. Certains, ça leur fait peur, mais d'autres, qui peuvent être des musulmans intégristes, durs, qui ont une sorte de compte à rendre, à qui ça fait plaisir que l'islam fasse peur, ils disent, c'est vrai, l'islam doit être fort, c'est vrai qu'on est en phase d'islamisation, et donc ils le reprennent à leur compte.
Ouais,
c'est-à-dire que ça devient une prophétie autoréalisatrice dans certains milieux, de l'autre côté. C'est pour ça que je parle de mise en scène, hein, parce que c'est une sorte de théâtre fermé, de plus en plus étouffant.
La tempête provient de l'islam et des banlieues, des marginaux installés sur la terre du milieu, cachés sous leurs voiles sur les lignes de transport. Leurs barbes sont trop longues, interdites d'aéroport. C'est légitime si l'on cède à la psychose. Un immigré trop studieux, ça couvre quelque chose. Dans leurs trousses, couteaux, cutters et canifs, des manuels de pilotage dans un cartable explosif, des lobotomes de la télévision. Les médias sont les juges des procès d'intention, fournisseurs d'intox au kilogramme, de l'amalgame, terrorisme et islam. Dans mon ghetto, on a peur de l'avion, et les femmes impressionnent beaucoup plus que Cendrillon. Et c'est juste par manque de culture qu'Oussama Ben Laden est écrit sur les murs. En septembre, voilà une date à retenir, comme celle qui secoue une partie de notre avenir. Et quand la violence gratuite est un commerce, ni violeur ni terroriste, un slogan qui bouleverse. Ni violeur, ni terroriste, ni macho, ni proxo, ni terreau, ni rigolo, ni bourreau, ni gigolo. Ni violeur, ni terroriste, ni violent, ni racailleux, ni vilain, ni orgueilleux, ni violeur, ni crapuleux. Ni violeur, ni terroriste, c'est pour les ghettos qui montrent l'exemple, les banlieues qui s'accrochent à la rampe. Ni violeur, ni terroriste, c'est pour les hommes et les djinns, les hijabs et les djinns, Abou Bakr et Médine.
Raphaël Yogi, on continue avec votre bouquin, Le mythe de l'islamisation. Il y a quelques semaine, à votre place, on recevait, là-bas, si j'y suis, recevait Georges Corme, que vous connaissez,
oui.
Ce chercheur, historien, économiste, pour son bouquin, pour une lecture profane des conflits. Et il travaille pour dire, mais qu'est-ce que c'est que cette lecture religieuses que nous avons des conflits, et exclusivement et avant tout religieuses des conflits, alors qu'on nous a appris dans n'importe quelle bonne école de sciences politiques, ou simplement en faisant marcher son bon sens, à appréhender et à mesurer l'importance d'un conflit à travers d'autres grilles de lecture, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, l'économie, tout ce qu'on voudra. Or, là, tout se réduit exclusivement à cette lecture religieuse des conflits. On pourrait dire la même chose à partir de votre bouquin, c'est-à-dire que Corme s'attaque au conflit, mais on pourrait dire pour une lecture profane de la société, pour une lecture profane des faits politiques. Ouais. Et dans l'islamisation, quand on pense aux musulmans visés par cette islamisation, c'est pas les grands chers du Qatar ou d'Abu Dhabi auxquels on pense. C'est quand même plutôt les jeunes de banlieue, plutôt les mosquées des quartiers populaires. Je veux dire par là que la sociologie n'entre pas dans l'esprit.
Mais on peut même le rapprocher des réflexions de Corme. C'est valable à l'extérieur, dans les relations internationales, et c'est valable à l'intérieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une lecture religieuse des conflits qui est devenue, depuis les années 2000, une lecture religieuse islamique des conflits. C'est-à-dire que lorsque c'est un conflit où il peut y avoir une variable religieuse qui serait la variable chrétienne ou bouddhiste et autres, au contraire, elle est euphémisée, voire elle disparaît de l'analyse. Par exemple, on parle très rarement de la dimension religieuse des conflits ethniques existants au Sri Lanka, parce que ça met en cause le bouddhisme, et donc le bouddhisme, c'est la bonne religion par excellence. Donc forcément, ça n'entre pas dans la réflexion. Alors qu'un conflit comme le Mali, où ce sont des musulmans contre des musulmans, avec un islam qui était sur place, un islam plutôt de tariqa, soufi, relativement ouvert, et face à ça, un islam d'Al-Qaïda au Maghreb et d'autres organisations qui se disent islamistes, on va dire c'est de l'islamisation. Alors que derrière, il y a des conflits géopolitiques, des conflits de territoire très précis qui instrumentalisent le religieux. Mais c'est comme si nous étions même inhibés, même les scientifiques, les politologues étaient inhibés dans leur capacité à analyser ce conflit malien en termes sociaux, économiques, stratégiques, ce qu'il est, mais qu'ils sont eux-mêmes omnubilés, aveuglés par le fait que c'est l'islam, donc c'est forcément de l'islamisation. Et ils en oublient que c'est des musulmans contre des musulmans, donc ce n'est pas islamisation. Hein. Oui. Et que 99% des musulmans, ils ne veulent pas qu'on applique la charia en coupant une main, etc. Ils ne veulent pas. Et en interne, c'est exactement pareil avec la visibilité. Nous, ce qu'on constate, je vous donne un exemple, qui est un exemple qui nous a frappés, mais qui nous a vraiment frappés. Depuis 2009,
nous, vous dites,
l'Observatoire du religieux, le laboratoire que je dirige, et puis les étudiants doctorants que j'ai mis sur ce terrain. Depuis 2009, lorsqu'on a commencé à parler de façon outrancière dans les médias et ailleurs du voile intégral, ce fameux voile intégral, qui peut choquer. Hein. Effectivement, je rencontre une jeune fille en voile intégrale dans la rue. D'abord, je ne sais pas si c'est une jeune fille ou pas. Et ça peut me choquer. Je trouve ça étrange. Mais en tant que sociologue, je prends du recul et j'essaye de comprendre. Libido sciendi, désir de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai mis des chercheurs sur le terrain pendant des mois et des mois. Et on s'est rendu compte de façon assez étonnante que contrairement à l'image que l'on avait de ce voile intégral, de cette espèce de nouveau radicalisme, c'était certes du radicalisme, retour aux racines, à des racines supposées, du fondamentalisme, retour à un fondement supposé. Mais quand on approfondissait avec l'enquête, avec ces jeunes filles, on se rendait compte qu'elles étaient individualistes et qu'elles avaient quasiment une vision New Age de leur manière de porter le voile intégral. C'est-à-dire que ça participait, elles étaient un peu comme des jeunes filles qui pourraient, de façon surprenante, s'habiller de façon gothique. Se percer tous les côtés et surprendre leurs propres parents, leurs propres grands frères et vouloir donner des leçons à tout le monde. C'est-à-dire c'était celles, en gros, qui sont les plus fortes en tête, qui sont ultra individualistes et qui ne sont pas du tout dans l'islamisme au sens où elles ne veulent pas transformer la société, mais elles prétendent qu'elles sont plus malignes que les autres, qu'elles veulent se distinguer. Donc elles ne sont pas prosélytes, elles ne veulent pas que tout le monde le soit parce que ça serait plus aussi désirable. Enfin, un phénomène vraiment étonnant. Et presque toutes celles qu'on a réussi à interroger. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas d'autres, mais celles, ce qui constituait...
Toutes celles, vous n'en avez pas beaucoup, de toute façon.
Exactement.
C'est quelques centaines.
Tout à fait. Et d'ailleurs, lorsqu'on a travaillé aussi sur les chiffres, en juin, il y en avait 200. En septembre, il y en avait 2000. On s'est dit, comment se fait-il que les RG...
La multiplication.
Exactement. On a compris ce que c'était. On a compris quel était le pot aux roses. C'est que, apparemment, les individus qui travaillent pour les RG, qui font ce type de comptage, se mettent devant des mosquées réputés salafistes, où il y a plus de jeunes femmes comme ça, et ils les comptent. Mais le problème, c'est que comme elles ont un voile intégral, ils les comptent plusieurs fois. Et on finit par avoir des chiffres absolument hallucinants, qui sont plus fonction de leur fantasme que de la réalité. Alors que, bon, ça n'a pas énormément évolué. Alors aujourd'hui, c'est devenu à la mode, plus à la mode, justement à cause de la loi et à cause de cette focalisation médiatique. Parce que ça devient désirable, ça devient un désir d'en découdre. Mais en tout cas, c'est étonnant de constater que même chez les scientifiques, les sociologues, il y a eu cette incapacité à analyser ce phénomène comme un phénomène de mode. Ce qu'il est, nous, ce qu'on a constaté, c'est un phénomène de mode, de spiritualisation, de volonté de se distinguer, qui est tout à fait comparable, moi, à ce que j'étudie. Je suis spécialiste du bouddhisme occidentalisé. Eh bien, je constate la même chose chez des néo-bouddhistes qui peuvent devenir radicaux. Il y en a qui ne sont pas radicaux, hein, qui sont comme vous et moi. Puis il y en a d'autres qui vont décider de mettre une robe safran, de se raser et d'aller se balader sur le Pont Neuf. Ça va faire rire les touristes. Ils vont trouver ça étonnant et exotique. Si c'est une femme en voie à l'intégrale, c'est aussi surprenant quelqu'un qui se raserait, qui s'habillerait ou qui marcherait pieds nus. Sauf que ce n'est pas pareil. Ça pose un autre problème. Il y a eu une incapacité à analyser ces phénomènes comme étant des phénomènes sociaux comme les autres. C'est comme si ce n'était pas comme le reste. Pourquoi ? Parce qu'il y a la présomption de cette intention maligne particulière. Il y a ce théâtre-là.
Alors tout ça pourrait rester sur le champ de la polémique, du débat, etc. Mais il arrive que c'est des conséquences assez terrifiantes si on pense à ce qui s'est passé en Norvège en juillet 2001 avec Behring Breivik qui s'est attaqué non pas des musulmans mais à ceux qu'il trouvait trop laxistes en somme. Avec
le troisième personnage, les traîtres multiculturalistes. Sont supposés des traîtres multiculturalistes sous le simple prétexte qu'ils appartiennent plus ou moins à une mouvance sociodémocrate. Et Anders Breivik, les policiers norvégiens ont trouvé dans son ordinateur des textes de Batior, c'est-à-dire que c'est la thèse Orabia dont on parlait précédemment, qu'il a poussé à passer à l'acte.
Un salut d'extrême droite dès son arrivée dans la salle d'audience.
France 24.
Anders Behring Breivik donne le ton de sa ligne de défense.
16 avril 2012.
Costume noir, regard fermé, Breivik dit ne rien regretter. Il assume entièrement et fièrement ses actes.
Je reconnais les faits, mais je plaide non coupable, car j'ai agi en légitime défense.
Un geste, dit-il, contre ce qu'il définit les traîtres à la patrie. Coupable, selon lui, de piétiner la société norvégienne au profit surtout de l'islam. Une position extrémiste que précise son avocat.
Il a commis ces actes qu'il décrit comme cruels, mais nécessaires pour, je cite, « sauver l'Europe d'une guerre incessante ».
De quoi justifier, d'après lui, l'assassinat de 77 personnes en juillet dernier. Un geste qu'il dit avoir commis en pleine possession de ses facultés mentales.
Alors, vous citez parmi les choses qui sont quand même préoccupantes, bon, il y a bien sûr cette histoire terrifiante de ce type qui massacre 77 personnes à Oslo en 2011, mais il y a aussi ce sondage de l'IFOP de 2012 et qui est très intéressant concernant le sentiment de subir la montée de l'islam. Et ce sentiment est partagé par 40% de personnes en Allemagne, 42% en France, 44% aux Pays-Bas, 47% au Royaume-Uni. On voit qu'effectivement, il y a là un phénomène européen.
Non seulement c'est un phénomène européen, mais ce qui me semble encore plus préoccupant, c'est la suite du sondage. Il dit que s'ils sont mal intégrés, c'est parce qu'ils le veulent. C'est un désir. C'est vraiment un désir.
Ils se refusent. Oui. Ils se refusent à s'intégrer.
Exactement. Et moi, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que ces refus d'intégrer, il est représenté par ces Européens qui se disent de souche, qui sont quand même 70% en moyenne, comme étant cette intention maligne de s'approprier la culture européenne, s'approprier l'identité européenne. Et là, on a le sondage qui est paru fin janvier, début février, qui a été commandé par Le Monde et le Cevipof, et qui dit qu'il y a, en gros, et alors là, on passe même sur les Français, aux alentours de 80% des Français, qui pensent que les musulmans, en particulier en tant que musulmans, cherchent à imposer leur mode de fonctionnement aux Européens, c'est-à-dire à imposer leur culture, à imposer leur mode de vie même, par la force, en quelque sorte. Ah, c'est vraiment préoccupant, parce que c'est vrai que c'est un phénomène européen. Mais, encore une fois, moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème au sein de l'islam. Je ne cherche pas à défendre l'islam, je ne cherche même pas à défendre les musulmans en tant que tels. Je cherche à montrer un dysfonctionnement dans notre société qui est fondée sur une image erronée. Hein. Et j'allais dire, même du point de vue de l'efficacité policière contre les réseaux terroristes, contre des gens qui peuvent jouer aux terroristes, contre des réseaux qui existent, contre toute une série de choses qui peuvent exister, l'inégalité homme-femme, etc. Eh bien, en s'aveuglant et en mettant tout le monde dans le même sac, en ayant cette espèce d'image, de point de vue même de l'efficacité du ciblage policier, on est mauvais, on est inefficace. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que d'un côté, on analyse mal, on n'arrive pas à faire d'enquête sociologique sérieuse sur les déterminants sociaux qui existent comme ailleurs, qui est l'islam ou qui n'est pas l'islam. Mais du coup, on n'arrive pas à dresser, comment dire, un panorama réel. On ne fait pas de diagnostic, on ne peut pas faire non plus de thérapie réelle, là où il y a le problème. L'objectif de mon livre inutile, c'était de faire une sorte de diagnostic qui, paradoxalement, pour ceux qui le regardent, parce qu'ils sont dans le mythe, qui regardent le titre et qui se disent ça ne peut pas être un diagnostic neutre. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit neutre, pour que ceux qui ont envie de combattre un certain nombre de problèmes qui peuvent être aussi des problèmes liés à l'islam, eh bien, au moins, ils sachent où est le problème. C'est ça aussi l'idée.
Oui, Raphaël Liogier, il faudrait qu'on parle de la droite forte.
Oui, ben c'est-à-dire que au-delà de cette querelle, au-delà de cette querelle de personnes qui est un peu une querelle de coq entre François Fillon et Copé, il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se jouer. C'est qu'on a une certaine forme de gaullisme, mais de gaullisme modéré, face à ce nouveau populisme qui se fonde sur le mythe de l'islamisation pour construire son système, pour construire son idéologie. Et on le voit très bien dans la charte de la droite forte, qui a obtenu le plus de voix à la convention de l'UMP, hein. Plus que Jean-François Copé lui-même. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de débat. C'est vraiment ce qui devient le cœur de l'UMP. Et si on lit cette charte, on est quand même étonné de lire que son titre 3 est entièrement focalisé sur l'islam. Pas focalisé sur l'islam n'importe comment. C'est-à-dire que ce que propose ce titre 3, c'est de mettre en place des mesures administratives qui limiteraient la construction des mosquées. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des procédures administratives plus compliquées que si on voulait construire un temple ou n'importe quoi, un temple protestant ou une pagode bouddhiste. Donc ce sont des lois spéciales, ce sont des mesures spéciales qui sont demandées. On demanderait aussi de faire signer une charte particulière aux clercs musulmans pour qu'ils reconnaissent l'égalité homme-femme. Parce qu'ils sont suspects de ne pas la reconnaître a priori. Il y a toute une série de mesures comme ça qui sont extrêmement importantes parce qu'elles montrent que Marine Le Pen a eu raison de changer son discours, même en étonnant son propre père, puisqu'elle est devenue le cœur de la politique, elle est devenue le noyau. Moi, je ne crois pas qu'on assiste à l'extension des thèmes de l'extrême droite. Je crois qu'on assiste à la disparition de l'extrême droite. Mais ce qui est plus grave, parce que quand on écoute le discours de Marine Le Pen, c'est anticapitaliste, comme ce oui. qu'était le national-socialisme dans l'Allemagne complexée identitairement des années 30. Hein, donc anticapitaliste à la base, peur de tout ce qui est extérieur, capitalisme, mondialisation. Et puis en dessous de ça, liberté d'expression, parce que les musulmans limiteraient notre liberté d'expression.
Féminisme,
droit des femmes.
Soutien
aux gays, tout à fait.
Sionisme.
C'est pour ça qu'elle a... C'est pour, sionisme, défendre le juif, c'est ce qu'elle dit. Et même défendre la souffrance des animaux en rapport avec sa représentation du halal, de l'abattage halal. Ça veut dire qu'en faisant ça, eh bien maintenant elle ratisse, elle devient une sorte de noyau dans l'ensemble de la politique française. C'est comme ça que les populistes sont arrivés au pouvoir aux Pays-Bas. On dit que c'est de l'extrême droite. Ils disent qu'ils ne sont pas de l'extrême droite et ils ont raison. Hein? Rappelons que c'était un homosexuel qui défendait la liberté d'expression, hein, qui était arrivé au pouvoir. Au Danemark, pareil. Eh bien, en France, c'est ce qui risque d'arriver. Parce que contrairement à son père, qui était d'extrême droite et qui pouvait avoir une forte marge pour arriver au second tour, une fois au second tour, de toute façon, comme c'est quand même de l'extrême, il lui reste que 20%, il ne va pas au-delà en termes de réserve. Il a 80%, 70 et 80% contre lui. Avec Marine Le Pen, peut-être qu'elle n'aura pas suffisamment pour aller au second tour. Mais si elle va au second tour, comme elle a recentré complètement son programme, et que maintenant elle est au cœur de la politique française, on le voit dans la charte de la droite forte à l'UMP, on le voit aussi au Parti Socialiste. Il y a beaucoup de jeunes socialistes qui se reconnaissent aujourd'hui dans ces thématiques-là, parce que comme elles sont prétendument sociales, prétendument pour défendre la liberté d'expression, elles ne font pas mal à leur conscience de socialiste.
Au contraire.
Exactement. Du coup, on voit que si elle arrive au deuxième tour, là, ça ne sera pas pareil. Elle peut être élue présidente de la République. Donc, on est dans une configuration à l'échelle européenne complètement différente. Ce n'est plus de l'extrême droite, c'est un populisme européaniste. Même quand il prétend être nationaliste, il est européaniste. Moi, je trouve que tout ça est très grave. On n'a pas parlé de Mohamed Merah. On aurait pu parler de Mohamed Merah. Parce que Mohamed Merah, quand on analyse, au-delà de l'émotion, quand on analyse son parcours, on se rend compte que c'est un individu qui était surtout extrêmement fragile économiquement et socialement, qui était en déshérence, hein, qui, à côté de ça, était fragile aussi psychologiquement, effectivement très manipulable. Il avait essayé de donner un sens à sa vie en étant informateur des RG, en essayant d'entrer à plusieurs reprises dans l'armée, en particulier dans la Légion. Il avait été déclaré inapte. Non, ce n'était pas possible. Puis à un moment donné, cette posture du djihadiste qui nous fait peur pour la plupart d'entre nous, ben c'est devenu une posture désirable pour lui et il est devenu musulman. Il est devenu musulman parce qu'évidemment, comme il était basané, d'origine maghrébine, etc., donc il a pu déterminer que l'ennemi, c'est celui qui était en face, qui forcément lui en voulait. Et donc, le premier, c'était l'objet de sa frustration, des légionnaires. Il a tué des légionnaires et au passage, des musulmans. Puis après, c'est devenu le juif, hein. Donc, la résurgence même actuelle d'un certain antisémitisme, c'est un antisémitisme qui est potentialisé aussi par le mythe de l'islamisation. On a ce théâtre, c'est ça qui est grave, ce théâtre avec le héros qui entend défendre la civilisation, qui peut être un simple éditorialiste qui croit à moitié mais qui fait sa vie là-dessus, qui peut être un politique parce qu'il sait que ça lui rapporte des voix et que 70, soit 80% des Européens sont dans cette optique-là. Mais ça peut être quelqu'un qui, parce qu'il est fragile, prend ça au mot et puis passe à l'acte. Puis il y a le peuple trompé. Le héros, il s'exprime au nom du peuple trompé, de ses 70-80%. Et puis, il y a le traître multiculturaliste. Hein, lui qui peut être l'idiot utile, on l'a dit, ou carrément le traître qui se met du côté de soi-disant plus fort. Et puis, il y a le djihadiste. Et le djihadiste, c'est une posture quasiment équivalente à la posture du héros, dans sa version dure. C'est ça qu'il faut réaliser.
Bon, je ne sais pas si ça aurait été utile, cette heure qu'on a passée avec vous, mais je l'espère franchement. J'espère qu'il y aura au moins quelques informations et quelques analyses qui permettront peut-être de dégonfler un peu ce mythe de l'islamisation.
J'ai peu d'espoir. Là, je vous vois. Au début, vous disiez que ça ne servait à rien, puis maintenant, vous devenez naïf.
Il faut bien non, que je me conforte quand même dans ma fonction. Raphaël Liogier, merci.
Allô?
Oui, bonjour madame, c'est Marie Dubois de Scarlett à l'appareil, l'opérateur téléphonique.
Est-ce oui, que... bonjour.
Bonjour, est-ce que je peux parler avec la personne qui s'occupe des factures internet chez vous, s'il vous plaît?
Non, ça doit être une erreur, madame.
Vous n'avez pas internet chez vous, madame?
Non.
Ben, excusez-moi de vous avoir dérangé alors.
Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès.
C'est très gentil
parce
de
que ça doit être un métier stressant. Et répétez-moi un peu votre prénom.
C'est madame Marie Dubois, c'est Marie.
Ah oui, Marie Dubois. Eh bien, je vous souhaite... malheureusement, moi, je suis en fin de vie, mais je suis encore heureuse de vivre, vous savez.
Ben, si je peux avoir une personne comme vous, au moins une fois par mois, je vais être la femme la plus heureuse sur la Terre.
Eh bien, mais alors, je vais vous poser une autre question personnelle.
Dites-moi.
Parce que vous êtes tellement gentille. Est-ce que vous êtes nord-africaine?
Exactement.
Eh bien, ça ne m'étonne pas, mon enfant. Assalamu alaikum.
Ah, alaikum salam, Hadja.
Vous êtes musulmane?
Oui, oui, c'est ça.
Eh bien, mais moi, je vais encore prendre 10 secondes de votre temps. Ça va vous faire plaisir.
Oh là là.
Je suis une dame de 76 ans, bien blanche, bien belge. Mais j'ai, à 52 ans, j'ai fait 4 ans d'arabe fil jamia ULB à Bruxelles.
Ah, d'accord, mais vous avez
pour apprendre
un
le fousra. Je vais vous dire, je ne suis pas musulmane,
oui,
mais de tout mon cœur, je vous dis, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah.
Oh là là, ça me va droit au cœur, hein, vous savez.
C'est beaucoup pour vous, hein. Et
oui,
quel, dites-moi maintenant un peu votre nom en arabe, qui doit être joli.
C'est Rizlan.
Rizlan.
Rizlan, c'est comme la gazelle.
Oh, mais vous êtes une vraie gazelle, alors. Eh bien, et si vous permettez,
beaucoup.
Mon enfant, pour dire que tout le monde n'est pas fanatique, parce que moi, mon mari est décédé, mm-hmm, et comme j'avais appris l'arabe, je lisais le Coran, je ne peux plus rien lire maintenant. Et
ouais,
ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la sourate al-Baqara.
Oh là là.
Vous lisez le Coran ?
Oui, bien sûr, madame, c'est normal.
Eh bien, ça m'a beaucoup aidé. Vous avez une très belle religion. Voilà, mon enfant avec Habibati, avec tout mon amour, Habibati. Pour vous, votre famille et vos parents.
Merci beaucoup, madame. Ça me donne les larmes aux yeux. Merci
voilà.
beaucoup.
Voilà, eh bien,
je vais essayer
ne perdez jamais courage. Il y a des imbéciles partout. Et je trouve déjà scandaleux que vous ayez à changer de nom. Allez, mon enfant, avec tout mon amour de grand-mère. Hein.
Oh, merci infiniment, chère madame.
C'est au revoir, ma chérie.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, madame.
Voilà, une conversation téléphonique, ça nous ramène au centre d'appel dont nous avons parlé cette semaine en Tunisie. Puis ça nous regonfle un petit peu le moral quand même. Merci à toutes et à tous. Je rappelle à nouveau le bouquin de Raphaël Yogier, Le mythe de l'islamisation, une obsession collective, c'est au seuil. Par ailleurs, nous vous informons que Nadir Dedonne, qui était incarcéré en Irak, il y a eu des pétitions, des mobilisations pour sa libération. Il a été incarcéré pendant 23 jours et il a été libéré pas plus tard qu'hier. Il y a un rassemblement qui était prévu samedi 16 février à 14h30 à la Fontaine des Innocents à Paris. Eh bien, cette mobilisation est maintenue. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter, sur le site labas.org également. Vous pouvez réécouter cette émission et puis vous pouvez faire un tour sur la page Facebook de Là-bas, si j'y suis, et la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry, Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grigory Salomonovic, montage Franck Aderer, Marion Dupac-Antel. Attends dès à présent vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.